en Bretagne d'outre-mer. Pèlerinage celtique. De tous les peuples celtiques, celui qui a su se tailler au soleil la place la plus large et le mieux s'adapter aux conditions de la civilisation moderne, sans rien abdiquer des caractères originaux de la race, c'est assurément le peuple gallois, loyalement associé aux destinées du Royaume-Uni et l'un des agents peut-être les plus énergiques de la prospérité anglaise. Il n'en est pas pour cela demeuré moins fidèle à tout ce qui lui a paru digne d'être retenu des poétiques institutions de son passé. C'est ainsi que les principales villes du pays deviennent, à tour de rôle, chaque été, le théâtre d'une manifestation solennelle qui est comme la résurrection symbolique, en un décor approprié, des grandes panégyries semi-religieuses, semi-littéraires, des anciens âges. Cette fête, connue sous le nom d'Eisteddfod, les Gallois la qualifient à juste titre de nationale. De tous les points de l'antique Cambrie, les populations s'y rendent par foule enthousiaste, heureuses d'affirmer périodiquement, contre toute tentative d'empiètement du dehors, l'unité de la conscience collective. C'est vraiment la communion d'un peuple au banquet de l'esprit traditionnel. L'Eisteddfod de cette année 1900 s'est déroulé à Cardiff, la capitale du South Wales, dans la semaine du 18 au 24 juillet. Si elle n'avait présenté, comme ses devancières, qu'un intérêt purement gallois, quelque attrayant d'ailleurs que soit le spectacle, nous n'aurions pas cru devoir en entretenir le public français. Mais, comme pour protester peut-être au nom du doux idéal celtique contre l'exclusivisme de certaines théories, aujourd'hui en cours, qui travaillent à reconstruire je ne sais quelle muraille de Chine entre les peuples, les Kimris ont pensé que le moment était venu d'ouvrir leur cercle, leur gorsed, et de convier à y prendre place non seulement leurs congénères et compatriotes d'Écosse, de l'île de Man et d'Irlande, mais les Bretons de France eux-mêmes, séparés d'eux depuis quelque 1300 ans. Je ne voudrais pas attribuer à l'événement plus d'importance qu'il ne mérite. Quelques gazettes ont imaginé d'y voir l'indice d'une sorte de pacte subversif. Il ne se serait agi de rien moins que de la reconstitution de je ne sais quelle nationalité mythique sous l'égide de quelque nouvel Arthur. J'avoue humblement, quant à moi, qu'en acceptant l'aimable invitation de Sir Thomas Morrell, mayor de Cardiff, je ne me suis pas un seul instant avisé que ce pût être pour collaborer à d'aussi magnifiques dessins. Non, ce sont la rêve d'un autre temps, et les Gallois, pas plus que les Bretons, j'en suis sûr, ne sont gens à donner dans ces chimères. Le vrai, c'est qu'ils se sont simplement souvenus des liens d'étroite parenté qui jadis unirent nos ancêtres aux leurs, et ils nous ont offert de resserrer les nœuds d'une tradition, pour ainsi dire, familiale, que les siècles avaient relâchée sans la rompre. Cela n'est certes pas pour changer la face de la terre, mais, tout de même, n'y aurait-il pas dans ce renouveau de l'ancienne fraternité celtique un phénomène assez mémorable pour valoir d'être signalé? C'est le samedi soir, 16 juillet. Saint-Malo hausse dans le crépuscule son archaïque décor de ville féodale. Nous sommes 10 ou 12 Bretons de Bretagne, épars sur le pont du Southwestern. Le reste de la délégation, venant de Paris, doit nous joindre en terre anglaise par la voie du Havre. Le sifflet du départ a émi dans le calme nocturne. Presque aussitôt, l'îlot du Grand B dessine au tournant du môle sa croupe noire de monstre échoué. J'avais rêvé d'y aller cueillir une des fleurettes de mer qui foisonnent au pied de la tombe de René, pour en faire hommage là-bas à Merlin, qui fut son ancêtre poétique et dont il fit revivre parmi nous les prestiges et les enchantements. Je n'en ai pas eu le loisir. Je me contente donc de saluer au passage le morne où il repose. La nuit est complètement descendue. C'est à peine si, aux confins du ciel occidental, flotte une dernière bande de clarté, d'un vert d'émeraude pâli. Seule la mer semble avoir gardé du jour dans ses profondeurs. Elle est d'une douceur charmante et d'une paix infinie. Accoudé au bastingage, je songe à des nuits d'autrefois, des nuits vieilles de 1300 ans. Sur ces mêmes flots voguaient à la faveur des ténèbres des barques barbares, des couracs aux frustes membrures de chêne, tendus de peaux de bœufs. C'était la flottille de l'exode breton, fuyant devant la tempête saxonne, emportant vers les rives armoricaines les émigrés de la grande île. La phrase si suggestive de l'historien Gilda me revient en mémoire. Ils se rendaient au pays d'outre-mer avec de plaintifs gémissements et, sous leurs voiles gonflées, en place du chant célosmatique, ils murmuraient le psaume « Seigneur, votre droite nous a dispersés parmi les nations ». Les eaux qu'ils sillonnèrent, voici que nous les franchissons à rebours, nous, leurs lointains descendants. Dans le recueillement de l'espace, ma pensée remonte vers l'ancêtre primitif de mon clan. Je me le représente, courbé, tel qu'il dut être, au banc des plus humbles rameurs. Et je sens tressaillir en moi la chaîne invisible, la mystérieuse chaîne d'âme qui nous relie l'un à l'autre par-delà l'étang. En quel lieu de la Cornouaille transmarine, en quel repli sinueux de la montagne Kimrique eut-il son berceau? J'ai dormi, l'oreille contre le hublot. Les voix des sirènes celtiques, qui enterrent jadis ces parages, m'ont chuchoté des songes merveilleux. Lorsque je regagne la passerelle, je me demande si je ne rêve pas encore. Nous voguons dans une atmosphère irréelle. Le ciel matinal ondule en mousseline blanchâtre, moiré d'indéfinissables nuances. La terre, paraît-il, est toute proche, mais refuse de se laisser entrevoir. Des éclairs argentés tournoient, qui sont peut-être des goélands. Le steamer lui-même a des allures de mystère dans le vaste silence enchanté. Cela vous remet en l'esprit les fabuleuses navigations des Pérédures et des Brandans. Et, pour ajouter à l'illusion, soudainement une cloche tinte, une sorte de gong de la mer aux longues vibrations mélodieuses, au timbre magique et surnaturel. Quelle isse resplendissante va tout à l'heure surgir des eaux? C'est le phare des aiguilles, me dit le pilote. Nous entrons dans le chenal de Wight. Le charme est rompu. La brume se dissipe et le rêve s'envole. En attendant la paix celtique, annuellement proclamée à Leistetford, ce sont des visions de guerre qui défilent devant nos yeux. Des gueules de canon bâillent aux embrasures des forts. Des torpilleurs s'échelonnent le long de l'île blonde, pareils à d'immenses alligators au repos. Southampton maintenant, et toute la tristesse lourde, accablante d'un dimanche britannique, compliquée de l'horreur banale d'une cité industrielle. J'aspire vers l'ouest, vers la fraîcheur galloise que je savoure par avance comme l'haleine d'une autre patrie. Nous avons pris le premier train du lundi. Il nous entraîne à travers de molles campagnes, sous un air embrasé. La chaleur est si intense que le paysage, exténué, semble s'y dissoudre. Heureusement que l'horaire nous a ménagé une halte dans la délicieuse oasis de Salisbury. En sa rivière limpide s'éploient et frissonnent des chevelures d'herbe qui nous rappellent nos fontaines sacrées. Et quels moments exquis passés à la cathédrale, dans la nef d'abord, toute peuplée de tombes historiques, tout imprégnée de l'arôme des siècles défunts, puis dans le square qui l'entoure et, selon l'expression de Bourgaud du Coudray, qui est des nôtres, lui fait comme une zone de beauté. Des ormes quasi contemporains de l'édifice prolongent sur le vert moelleux des pelouses leurs grandioses gestes d'ombre, et c'est un asile incomparable de solitude, de méditation, d'apaisement. Mais de nouveau nous sommes en route, de nouveau les horizons se succèdent, spacieux et riches, embués d'une vapeur d'or. Les cottages flambent dans le soleil, façade blanche et toit de tuiles rouges. D'aucuns portent, comme par coquetterie, une coiffure de chaume qui contraste avec leur aspect cossu. Des fleuves s'attardent, flegmatiques, parmi des pâtis luxuriants. Les collines ont des formes nobles sous des couronnes de bois touffus, aux verdures qu'on dirait peignées. Cette nature est trop somptueuse, trop humanisée aussi pour nos goûts de bretons. Elle va jusqu'à se prêter à la réclame et souffre qu'on sculpte dans le vif de son calcaire de gigantesques images de chevaux visibles à des lieux pour servir d'enseigne à des éleveurs. Que tout cela nous met loin de la maigre et fine Bretagne, dont le charme est surtout fait de discrétion et de sobriété. Retrouverons-nous vraiment, comme on l'affirme, quelque chose de son suave et austéro sur l'autre rive de la Severn ? Lorsqu'en voyageant dans la presqu'île armoricaine, écrit Renan, on dépasse la région plus rapprochée du continent, où se prolonge la physionomie gaie, mais commune, de la Normandie et du Maine, et qu'on entre dans la véritable Bretagne, dans celle qui mérite ce nom par la langue et la race, le plus brusque changement se fait sentir tout à coup. Le même contraste frappe, dit-on, quand on passe de l'Angleterre au pays de Galles. Voici, en effet, qu'au sortir du pont tubulaire, comme par la vertu de quelque opération de sorcellerie que la nuit du tunnel nous aurait dérobée, nos yeux s'ouvrent sur une contrée toute différente de celle que nous avons laissée derrière nous. Une contrée non pas moins riante peut-être, mais moins grassement, moins uniformément riante, et où, par endroits, les choses nous apparaissent comme avec des visages familiers. Je les ai déjà traversées, me semble-t-il, ces prés de gazon pâle. Je reconnais ces arbres nains, aux troncs noueux, aux ramures toujours échevelées dans la même direction par les vents d'ouest. Je le reconnais, le mur mal crépi de cette ferme. Je la reconnais, la mare d'eau stagnante qui verdit au pied de ce talus, et ces esquilles de granit rouge qui, de ci de là, percent la maigreur de la terre. Que d'âpres sites, chers à mes flâneries, ne m'ont-elles point rappelées? Il y a bien, il est vrai, dans un ennuagement de fumée, j'allais dire de frondaison, noirâtre, une forêt de cheminées d'usines qui contrarie quelque peu l'harmonie de la perspective au fond des lointains. Mais pour celte que l'on soit, on sait faire sa part à la réalité. Et puis, ces cheminées d'usines, en somme, c'est Cardiff. Nous ne sommes pas plutôt en gare qu'un cri retentit. Par ici, les Bretons! C'est la voix du professeur Barbier, un franc-comtois au parler sonore, attaché depuis longues années à l'université galloise dont le collège de Cardiff est un des trois centres. Je veux dire tout de suite combien nous avons d'obligations à cet excellent homme. Il n'a pas été seulement un précieux interprète pour ceux d'entre nous qui possédaient insuffisamment soit l'anglais, soit le Kimrick. Il nous a servi à tous de guide, ou mieux, de tuteur moral. Sa maison nous fut, toute une semaine, une sorte de foyer toujours ouvert, où nous réunir, nous renseigner, concerter nos multiples démarches et, de temps à autre, par manière de détente, reprendre comme un air de France. En un mot, ce doux Burgonde, d'âme si chaude et de cœur si vibrant, aura plus contribué que bien des Celtes à l'œuvre de la fraternisation celtique. On se rappelle, dans la biche, la rencontre des deux anciens Labadins. C'est étonnant comme on a peu de choses à se dire quand il y a 20 ans qu'on ne s'est vu. Les Gallois et les Bretons, eux, ne s'étaient guère rencontrés depuis des siècles. Les préliminaires de leur reconnaissance eussent risqué fort de traîner en longueur si le professeur Barbier n'avait été là pour les pousser joyeusement dans les bras les uns des autres. L'instant d'après, nous dévalions, bannière de Bretagne en tête, vers le Barry's Hotel où l'Alderman Jones, délégué par le maire de Cardiff pour être son porte-parole à un truculent déjeuner de bienvenue, associait et faisait acclamer, dans un toast plein d'élévation et d'humour, les noms de Sa Majesté la Reine d'Angleterre et du président Loubet. Ensuite de quoi, procédant à ses fonctions de nomenclateur, le Herald Bard, le Bard de Héros, Arlinet Penigarn, indiquait à chacun de nous les hôtes bénévoles qui s'étaient spontanément offerts à nous recevoir. Ma bonne étoile fit que je n'eus point à me séparer de mon éminent ami Bourgaud du Coudray. Je ne lui sais pas un gré moindre de nous avoir logés de compagnie sous le toit de M. Samuel, car c'est pourtant à cet intérieur israélite que nous devons d'avoir goûté, dans ce qu'elles ont de plus cordial, de plus intime, de plus pénétrant, toutes les douceurs et toutes les prévenances de l'hospitalité galloise. J'aurai toujours présente à l'esprit les attentions exquisement discrète et délicate dont nous y fûmes l'objet. Et elle n'est pas près non plus de s'éteindre dans mes yeux l'admirable vue du parc de Bute, dont la mer de feuillage montait jusqu'à ma fenêtre et me versait chaque soir, après la fatigue des cérémonies officielles, sous les averses de feu d'un ciel torride, le filtre, délicieux à humer, de ses ténèbres végétales, de son silence et de sa fraîcheur. Il ne saurait entrer dans mon dessein de décrire par le menu les imposantes manifestations de tout genre auxquelles il nous fut donné de participer. S'il faut en croire les Kimris eux-mêmes, jamais l'Eisteddfod n'avait revêtu un caractère aussi grandiose, ni ne s'était déployé avec autant d'éclat. Dès le soir de notre arrivée, une réception avait lieu au Town Hall, offerte par la municipalité de Cardiff, sous la présidence de Sir Thomas Murrell, et comprenant plus de 4000 invités. Les délégations des divers pays celtiques y défilèrent à tour de rôle, les Bretons marchant les premiers, précédés du biniou national. Seuls les Écossais manquaient. Ils ne parurent qu'assez tardivement, mais quelle entrée! C'est peut-être une des émotions les plus nobles que j'ai jamais ressenties. J'étais montée pour respirer sur le toit en terrasse de l'hôtel de ville, d'où l'on domine dans toute son étendue, avec ses usines, ses chantiers et ses docks, la formidable cité du charbon. La nuit, merveilleusement étoilée, s'embrasait à l'horizon du flamboiement des hauts fourneaux. Par les vasistas ouverts d'une espèce de kiosque central, servant à ventiler les profondeurs du hall, des bouffées de musique, des échos de chœur montaient. Soudain, parmi les groupes qui stationnent de ci de là ou se pressent devant les buffets en plein air, il se fait un long remuement, et je vois s'avancer des hommes aux statures superbes, de grands vieillards, majestueux et graves, qu'on dirait échapper tout vif des poèmes d'Ossian. Ils portent le béret des Highlands, le plaid, retenu à l'épaule par une agrafe de pierres précieuses, la jupe ou tartan, bariolée aux couleurs du clan, et pendue à la ceinture, la pochette de cuir, le sparron, que garnissent des poils de chèvre. On se croirait à la cour de Fingal. Mais voici le plus saisissant. Derrière ces patriarches viennent de déboucher six bagpipers, aussi archaïquement accoutrés qui, sur un signe, se rangent puis s'ébranlent. Alors retentit un pas de marche à la fois mélancolique et martial, empreint tout ensemble de sauvagerie et de mysticité. Cela s'enfle, s'élargit, s'exaspère, puis frémit en modulation vague, comme pour s'apaiser, et de nouveau repart. Ce fut une sensation inexprimable. Je connus là d'exaltantes minutes de rêve, comme si j'avais vu se lever autour de moi tout le mystérieux passé de ma race, évoqué par la puissante incantation de ces cornemuses d'Écosse dans la nuit. Ah, nos pauvres biniou de Bretagne, en comparaison, quelle misère! L'avouerai-je, je fus très loin d'éprouver rien de semblable en franchissant le lendemain, dans les rangs du cortège traditionnel, l'enceinte sacrée du Gorsedd, ni même lorsque l'archidruide Ra Mon, dans la vie ordinaire le révérend Williams, m'eut attiré à lui, au centre du cercle, sur la pierre couchée qui est censée représenter le nombril du monde, pour me conférer, avec de tonitruants éclats de voix, l'investiture de l'ordre bardique. Il ne laissait cependant pas d'avoir sa beauté, le spectacle de ces druides blancs, de ces bardes bleus et de ces ovates verts, évoluant comme une théorie de mages antiques sur les fonds vaporeux de Cathays Park. C'était évidemment d'un effet plus magistral que n'importe quelle figuration d'opéra. Cela avait toutefois un peu le tort d'y faire penser, et le visage glabre du révérend William, sa mimique parfois trop expressive, n'était pas, il faut bien le dire, pour écarter ce rapprochement fâcheux. Quant aux autres personnages, dans quelle mesure ils prenaient au sérieux leur rôle, c'est ce que je ne me chargerai point de déterminer. Il y a dans l'âme galloise un mélange d'ironie paisible et de sereine gravité dont les proportions m'échappent, mais la gravité assurément domine. Il n'y avait pour s'en convaincre qu'à passer du champ du Gorsedd, dans l'immense baraquement de planches édifiées tout à côté et où se tenaient les séances littéraires et musicales de l'Eisteddfod. Ici, plus de vestiges de l'âge de pierre, plus de cromlech, plus de dolmen, plus de menhir, restitution purement décorative d'une préhistoire qui n'eut, comme chacun sait, rien de celtique. Non, pas d'autre mobilier dans ce pavillon qu'une estrade, des chaises et des bancs. Mais sur cette estrade se font entendre les plus admirables chœurs du monde, et sur ces chaises, sur ces bancs, un public de près de 20 000 auditeurs peut trouver place. J'ai tort de dire « peut trouver ». En réalité, la salle est toujours comble. La semaine durant, elle ne désemplit pas. Tandis qu'un flot se retire, un autre monte. Je parlais tout à l'heure de l'âme galloise. C'est là qu'il faut entrer en contact avec elle. Parce que c'est là vraiment qu'elle vibre toute. Là qu'elle se révèle en sa plénitude. Là enfin que l'on découvre de quelle puissance de recueillement, de quelle intensité d'émotion et d'enthousiasme elle est capable. Il plane dans l'atmosphère un je ne sais quoi de religieux et de grand. Par-dessus le concert des voix, il semble que l'on perçoive une harmonie plus haute et plus profonde, la symphonie des esprits, le merveilleux unisson des consciences. Jamais je n'ai mieux compris la portée de l'adage Kimric, notre vieille Galle est une mère de chants. À quel point ce peuple est pénétré de l'excellence de sa race, on put le voir dans la soirée, à ce même pavillon de l'Eisteddfod, quand, ressuscitant un usage cher aux Celtes primitifs, l'archidruide brandit devant l'assemblée les deux moitiés d'un glaive destinées, l'une à demeurer en Galles, l'autre à être emportée en Bretagne, et les rapprocha fortement pour faire constater à la foule qu'elle s'adaptait. Ce fut une minute inoubliable. À Oz, Edway, est-ce la paix ? Rugit de sa voix Léonine l'archidruide. « Edway, la paix !» répondit une clameur de tonnerre, jaillie de 15 000 poitrines électrisées. La salle entière est debout, applaudissante et trépignant. Un des lairds d'Écosse crie « Vive la France, la belle France !» Et soudain, les douces syllabes françaises volent de bouche en bouche, dominant l'âpreté des derniers hurrahs. Le plus sceptique en eût été remué jusqu'aux larmes. C'est l'occasion ou jamais de rappeler les belles paroles de Renan recevant l'Association archéologique du Pays de Galles à Rosmapamont. Vous êtes bons Anglais, nous sommes bons Français. Un haut devoir nous incombe aux uns et aux autres. C'est de maintenir en bonne amitié les deux grandes nations entre lesquelles nous sommes partagés et dont l'action commune, la rivalité si l'on veut, est si nécessaire au bien de la civilisation. C'est si bête de se haïr. En travaillant à la paix, nous travaillerons véritablement à une œuvre celtique. N'en subsista-t-il que ces nobles et touchants souvenirs, notre pèlerinage dans la Celtie d'outre-mer n'aura pas été perdu. Mais il est permis d'en attendre des fruits plus durables et plus généreux. Il se peut que l'Eisteddfod de Cardiff devienne la préface d'une intéressante histoire. Nos congénères d'Irlande ont déjà préparé les matériaux du premier chapitre qui se doit écrire en 1901 au congrès de Dublin. Histoire vite tournée en roman, diront d'aucuns. Rêverie sénile d'une race retombée à l'enfance, appuieront d'autres. À ceci, comme à cela, je recommande ces lignes de Renan, par où je veux conclure. Quand on songe qu'une foule d'individualités nationales, qui semblaient effacées, se sont relevées tout à coup de nos jours plus vivantes que jamais, on se persuade qu'il est téméraire de poser une loi aux intermittences et au réveil des races, et que la civilisation moderne, qui semblait faite pour les absorber, ne serait peut-être que leur commun épanouissement.